Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Bonjour tout le monde et bienvenue dans le Thunderdome! Le rendez-vous 100% électro, 140 BPM, mixé par DJ Tentacool. On est en direct live du Corazon Del Mar, le place to be number one de... Ah non, je me suis saoulé moi-même en fait, ouais. Bonjour et bienvenue dans Crac Crac, l'émission qui explore les sexualités de notre société. Non, je le vois bien, je me suis saoulé en fait, j'ai trop tiré sur la corde et j'ai plus envie de ça là, vous savez, les délires. Et c'est justement le thème de notre émission, d'habitude on s'intéresse au sexe, et bien cette fois-ci nous allons nous intéresser à celles et ceux qui ne s'y intéressent pas ou plus, bref, tout ce qu'on va qualifier de non-sexe, puisqu'il ne faut pas tout mélanger. On va aborder les différents types d'absence de sexualité, abstinence, chasteté, asexualité ou encore amour platonique, car ces configurations ne sont pas du tout les mêmes. Et d'ailleurs, j'arrête pas de lui dire que c'est platonique entre nous, mais elle en veut toujours plus. Ah, elle co-anime cette émission. Merci d'applaudir René Grosard.
Je l'applaudis moi-même aussi.
Ouais, comment ça va, René?
Ça va bien, mais alors quand je te dis que j'en veux plus, c'est quand on mange des chips, c'est que j'en veux plus.
Ah, d'accord, j'avais pas compris. Il y a mal donne. Ok. Alors, promis, on va pas reproduire ici les injonctions que subissent celles et ceux qui ne pratiquent pas ou plus le sexe. Dans notre société où tout est hyper sexualisé, on a longtemps négligé ces gens qui ne succombent pas aux sirènes du cul. Pourquoi, quand on parle d'ouverture d'esprit, on doit forcément penser au sexe, hein? Tout le monde n'a pas l'esprit mal placé. Quand on parle, par exemple, de faire le tourniquet breton, bah, y a des gens qui imaginent vraiment un manège à Saint-Malo. Ces autres façons de vivre ces histoires passionnées mais sans sexe, ça me fait penser aux échanges épistolaires du temps jadis, quand deux jeunes amoureux s'envoyaient des lettres enflammées et avaient la réponse plusieurs mois après. Oh, Elodie, ma douce, ta dernière lettre que tu m'as envoyée il y a 2 mois m'a fait chavirer le cœur. De sentir ton parfum couché sur ce papier lève le voile de mes larmes et me bouleverse tels les navires qui affrontent les vagues dans les falaises d'Étretat. Oh, mon Elodie, j'attends ta prochaine lettre avec grande impatience, signée Sébastien. Oh, une nouvelle lettre. Que dit-elle ? Cher Sébastien, c'est moi. Elodie est morte du typhus en octobre dernier. Merci de ne plus envoyer de lettres. Ah bon, ok, bah, je vais me branler dans ma calèche. Et en parlant de ça, il est la troisième roue du carrosse. Voici Maxime Donzel. Comment ça va, Maxime?
Ça va et toi?
Un applause pour Maxime.
On est un tricycle.
Oui,
hein.
Ouais. Ouais.
Tu disais quoi?
On est un tricycle.
On est un tricycle. On est un triporteur. Bref, crac-crac, sexe et non-sexe, beaucoup de questions face à ce sujet. Est-ce que, par exemple, une partouze asexuelle, c'est finalement un apéro entre amis? Est-ce que la position préférée des asexuels, c'est le démissionnaire? Et puis surtout, question cruciale, le fait de ne pas parler de sexe pendant 45 minutes, est-ce que ça risque de ruiner ma carrière ou au contraire, de la sauver?
Poulpe, tu ne m'as pas envoyé de lettre à moi, j'aurais bien aimé quand même.
Oui, mais c'est parce que j'avais plus de timbre à 2,90€.
Ah super, ouais, d'accord, génial. Okay. Alors moi, je suis hyper, mais hyper heureuse qu'on fasse cette émission. Et vous savez pourquoi? Parce que c'est un peu la révolution de parler de non-sexe. Et moi, globalement, bah, j'aime bien ça, la révolution. Je trouve ça sympathique hein, comme activité, avec le coloriage aussi. Et puis la brasse, en vrai. Depuis que j'écris sur le sexe, j'ai parlé de plein de choses qui sont dites tabous. J'ai interviewé des mecs qui s'auto-suçaient, un mec qui buvait son pipi, et j'ai même rencontré une femme, elle avait eu un orgasme une fois. Ouais, ouais. Et tous ces sujets ont pu provoquer des rires, de la curiosité, parfois de la colère, mais s'il y a un sujet qui met sincèrement les gens mal à l'aise, genre profondément, hein, où on peut les voir faire un tout petit sourire gêné comme ça, là, et ben c'est le non-sexe, et particulièrement les couples qui ne font plus l'amour. En même temps, c'est normal, on nous incite tout le temps au sexe. Dans la majorité des films, des pubs, des séries, ce qu'on voit globalement, c'est que le sexe fait partie de la petite panoplie des gens qui vont bien. D'ailleurs, une personne qui dit ne pas baiser ou peu baiser est regardée comme une paria de la société. Il y a même cette expression dramatique qui existe, on parle de misère sexuelle. Et on en parle souvent pour des hommes qui agressent, comme si sans sexe on devenait forcément un monstre prêt à harceler et à violer des femmes. Alors c'est amusant parce que justement, et je pense que vous serez vraiment ravis de le savoir, cela fait une semaine que je n'ai eu aucun rapport sexuel. Eh bien, je n'ai agressé personne. Voilà, je vous le dis, hein. Je me suis bien tenue avec tous les êtres humains que j'ai croisés. Je ne me suis pas frottée à quelqu'un dans le métro. Je n'ai pas sifflé de mec quand je les voyais dans la rue. Et sachez enfin que j'ai gardé bien cachées mes parties génitales, au chaud, sous mon manteau. Pourtant, ce concept de misère sexuelle est brandi et il fait peur. Même dans les enquêtes sociologiques, la satisfaction de la vie sexuelle se mesure au nombre de rapports sexuels. En gros, plus les gens en ont, plus ils se disent contents. Mais ne pourrait-on pas imaginer être hyper heureux de sa vie sexuelle en ayant par exemple, je ne sais pas moi, un excellent rapport par an, ou même en ayant zéro rapport sexuel tout court? Voilà, c'est pour ça que parler de non-sexe, c'est vraiment faire la révolution. C'est repenser en profondeur la sexualité. Et si on admet qu'on peut être heureux sans sexe, alors on ne fait plus l'amour par obligation ou pour tenir un petit agenda du cul. Agenda qui, au passage, serait super chelou, non? Mais juste pour le plaisir. Je vais chanter. Pour le plaisir, ne plus courir, ne plus compter, prendre la vie du bon côté, sans réfléchir, pour le plaisir.
C'est très joli, René, t'as la voix digne des trompettes des anges, si jamais ils ont des trompettes. Mais est-ce que tu peux peut-être lancer les invités?
Ouais, pardon. Nous accueillons donc aujourd'hui pour parler de tout ça Laurie, qui fait partie des 1% de personnes dans le monde qui sont asexuelles. Ça veut dire qu'elles n'ont pas de désir sexuel. Salut Laurie.
Salut.
Et puis on accueille aussi Aline Maillard, qui est journaliste pop culture, mais qui se définit aussi comme asexuelle et qui est experte sur le sujet. Bonjour Aline.
Bonjour.
Ça va bien?
Super bien.
Super. Je vais déjà briser une idée reçue sur l'asexualité. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes chaude pour qu'on commence l'émission? Rebonjour Laurie, donc t'es asexuelle et t'es aussi très courageuse parce que tu viens dans une émission qui ne parle que de sexe, ouais. Déjà bravo.
Mais déjà j'ai jamais autant parlé de sexe depuis que je dis que je n'en voulais plus du tout,
ouais. C'est vrai parce que t'as fait une interview Combini où tu parlais de ça.
J'ai fait une interview Combini, ouais. Le docteur.
Ouais, t'as fait la totale, bon d'accord, je suis désolé. On t'a invité parce que tu te définis comme asexuel hétéro-romantique. Alors déjà, moi, je connais qu'un mot sur trois, c'est hétéro.
romantique quand même.
Alors justement, qu'est-ce que ça veut dire, asexuel, hétéro-romantique?
Bah déjà, en fait, il faut bien séparer qu'il y a une attirance sexuelle et une attirance romantique. Mais sur la plupart des gens, ça se voit pas parce qu'en fait, t'es hétéro, donc t'es hétérosexuel, hétéro-romantique, donc pour toi, il n'y a aucune différence. Ouais. Tu vas tomber, par exemple, amoureux de femmes et tu vas avoir des désirs envers des femmes. Mais bon, en fait, c'est très différent quand même, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui peuvent être hétérosexuelles mais homo-romantiques. Ouais. Et tout est possible. En fait, il y a vraiment une attirance uniquement romantique sur qui tu vas tomber amoureux et une attirance uniquement sexuelle sur qui tu vas vraiment être attiré sexuellement parlant. Dans mon cas, moi je suis attirée vers les hommes romantiquement parlant, mais au niveau de ma sexualité, j'ai aucun désir envers ces hommes-là, ni envers les femmes, ni envers qui que ce soit. Donc je suis asexuelle. Hétéro-romantique.
Tu viens de bouleverser ma vie et ma vision des choses au bout d'une question. Merci, Laurie.
Pour qu'on comprenne bien, Laurie, ça veut dire que tu n'as jamais couché avec quelqu'un ou ressenti du désir sexuel?
Alors, j'ai jamais ressenti de désir sexuel. J'ai couché avec un homme, mais je n'ai jamais eu de désir envers cet homme-là pourtant.
De toi à moi, est-ce que toute seule, on peut, quand on est asexuel, se masturber?
Bien sûr. Okay. Bah, c'est se faire du plaisir à soi-même en fait.
Donc tu te désires toi-même quand même?
Je me désire moi-même, est-ce qu'on peut dire ça? Je ne sais pas, c'est simplement faire plaisir à son corps en fait. Les trois quarts du temps, moi si je fais ça, c'est pour m'aider à m'endormir, hein, clairement. C'est tout.
Je suis de la même team.
Ouais, pareil. Du coup, c'est vrai que moi j'ai remarqué aussi dans mon cas, mais aussi avec les autres personnes asexuelles, c'est que la masturbation, il y a quand même une grande partie des asexuels qui se masturbent. Mais c'est pas d'arriver effectivement par un désir, c'est pas parce que tu viens de voir un film et que t'as trouvé ça... Enfin, tu peux trouver ça hot parce que c'est genre le contexte qui est genre...
Excitant.
Le petit voile, la musique et tout, parce que j'imagine des rideaux comme dans les films avec Catherine Deneuve. Mais ça va pas être les personnes qui vont attirer sexuellement, et c'est pour ça aussi que le porno, du coup, bah, ça fonctionne pas trop parce qu'il y a pas d'atmosphère vraiment très sympathique dans le truc. Moi, j'ai commencé vraiment à bien comprendre ce que c'était que la sexualité, la demi-sexualité et tous ces trucs quand j'ai réalisé en fait ce qui se passait dans notre cerveau. Et donc, du coup, je passe mon temps, je sais pas si tu le fais toi, mais je passe mon temps à demander aux gens à me raconter comment ils se masturbent, les gens sexuels.
Non, bizarrement, j'aime pas ce genre de délire, mais. Ouais.
Donc, moi, je le fais pour comprendre surtout parce que ça me dépasse complètement pourquoi est-ce que vous autres, vous êtes excités, quoi. Mmh. Et en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai l'impression que même. Dans des trucs érotiques, quoi. Quand tu fais des rêves érotiques, ça m'arrive parfois d'être un peu excitée dans mon lit, mais je vais jamais visualiser des gens, je vais pas me visualiser moi en ayant des rêves sexuels. C'est grave, plutôt une ambiance. Et du coup, c'est vraiment là où pour moi je fais la différence. C'est tu peux avoir de la libido, même si généralement ça vient avec une plus petite libido, parce que du coup elle est moins stimulée que le reste pour les autres personnes.
Et ça va jamais être dirigé vers quelqu'un.
Voilà.
Ouais. Et alors du coup, Laurie, à partir de quand tu t'es aperçue de ton asexualité ? Il y a eu un déclic ?
En fait, il n'y a pas vraiment eu de déclic, il y a eu des soucis de relation tout d'abord. En fait, j'ai été amoureuse de garçon et au bout d'un moment, il me disait « Ouais, là, il faudrait qu'on couche ensemble. » Je dis « Non, tu veux pas qu'on fasse un Mario Kart plutôt ?» Je comprenais pas. Vraiment, je comprenais pas. J'étais là « Mais on est bien, qu'est-ce que tu veux que ça aille plus loin ?» Et au bout d'un moment, mes copines, elles ont commencé à me dire « Ouais, bon, Laurie, ça fait un an que t'es avec ton copain quand même. Bon, quoi bon ? C'est très bien. Non, non, il faut vraiment que t'ailles plus loin. Et ou alors, il y a quelque chose qui ne va pas, est-ce que tu es vraiment amoureuse de ce garçon ? Et en fait, à ce moment-là, tu te poses vraiment beaucoup de questions. Et c'est après une ou deux relations que j'ai commencé à me dire, ouais, il y a vraiment quelque chose qui ne va pas chez moi, quoi. Mais vraiment parce que, au vu de la société, au vu des autres, ce que ça me renvoyait, c'est que c'était pas ce que moi, j'avais dans mes relations. Donc, à ce moment-là, je me pose des questions et j'ai une amie qui me dit, oh putain, j'ai lu sur Mademoiselle un article, ça parle d'asexualité, il faut que tu lises, ça ressemble vachement à ton profil, ça ressemble vachement à ton vécu. Et j'ai lu cet article, c'était une nana qui expliquait sa vie, qui expliquait vraiment qu'elle avait découvert le terme asexualité, et je fais, oh putain, c'est moi. Mmh. Et c'était exactement moi.
Ça t'aide d'avoir un mot qui permet de... Ouais.
En fait, c'est pour ça, à mon avis, qu'on se met, entre guillemets, des étiquettes. C'est pour se dire, ah, en fait, c'est normal, t'es pas tout seul, tout va bien. Carrément. C'est pas simplement pour se coller une étiquette et se dire, je vais pas sortir de ma case. Non, à aucun moment, tu vois. C'est vraiment pour se dire, tout va bien, t'inquiète, c'est normal, pas de soucis, te fais
pas
de
bide.
C'est partagé. Ouais. Bah, sinon, tu te sens vraiment anormal, tu te sens tout seul, t'es là, tu te demandes si tu vas pas consulter, quoi, franchement.
Mmh. En quoi ton asexualité, elle est différente de l'abstinence qu'on retrouve, par exemple, dans des religions ou...
Bah, je pense que, alors, moi je suis pas du tout abstinente, donc je peux pas vraiment me mettre à la place de ces gens-là, mais j'imagine qu'en fait c'est surtout qu'eux ont un désir et ils choisissent de ne pas avoir de relation sexuelle.
Mais tu choisis aussi.
J'ai pas choisi d'être asexuelle, j'ai pas de désir, punto.
D'accord.
Tu vois, c'est vraiment une, c'est, faut vraiment prendre ça comme une orientation sexuelle. C'est, t'as choisi d'être hétéro toi ? Ou t'as choisi d'être homo, ou t'as choisi d'être bi, ou t'as choisi d'être, tu vois, pose les questions vraiment à une autre orientation sexuelle et tu fais, ah putain ouais, ça n'a aucun sens. Mais en fait c'est ça, en fait j'ai pas choisi de ne pas avoir de désir, tout simplement. Donc la différence entre une personne asexuelle et une personne qui est abstinent, c'est qu'il y a eu un choix, quelque part.
Mais juste du coup, comment on fait pour dire à quelqu'un qu'on kiffe qu'on est asexuel ? Enfin, il y a un coming out à faire, comment on s'en sort, quoi ?
Ben moi, pour ma part, je fais un coming out à... Si on peut dire vraiment ça, un coming out. Ouais. J'ai fait un PowerPoint à mes amis pour leur expliquer. Parce qu'au départ, j'aurais fait ça. Ouais, je suis asexuelle. Ils ont fait, oh putain, qu'est-ce que c'est que ce nouveau truc ? Et en fait, tu leur expliques par A plus B qu'est-ce que c'est. Ils font, oh ben ça va, c'est toi en fait.
Mais à après, quelqu'un que tu kiffes ?
À quelqu'un que tu kiffes, ben en fait... Moi, je sais pas, j'ai jamais vraiment eu à faire ça parce que mon copain actuellement, il me connaissait avant de me connaître, c'est-à-dire qu'il m'avait vu sur Combini avant qu'on se rencontre.
Ah, pas mal.
Pas mal, chiner des meufs sur Combini.
Ouais, c'est ça, il avait vu la vidéo Combini, il connaissait le terme asexualité et on s'est rencontrés, il a fait putain, je connais sa tête de quelque part. Putain, je connais sa tête de quelque part. Et un jour, j'ai ressorti le mot asexualité dans une discussion avec d'autres personnes parce qu'en fait, je pense que c'est utile d'en discuter, tu vois, il y a des discussions qui arrivent comme ça, ah, t'as baisé, truc, machin. Bon, OK, homosexualité, bisexualité. Ah, en fait, moi je suis asexuelle. Oh putain, qu'est-ce que c'est ? Et là, on explique. C'est important de le dire très tôt, je pense. Mais il faut pas dire ou alors quand il y a quelqu'un qui nous plaît, que ça commence à devenir sérieux, bon, faut dire bon, alors moi au niveau de la sexualité, ça se passe comme ça, ça se passe comme si. C'est en fait c'est des termes du contrat que tu poses tout simplement. Mais je pense que c'est important de le dire tôt parce que déjà les trois quarts des gens asexualité, ils te regardent bizarre, ils font qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ou alors deux, ils te confondent avec une plante souvent. Parce qu'ils disent, putain, mais t'es asexué, ça veut dire que t'as pas d'organe génital. Ah, non, en fait, c'est pas du tout la même chose. Il y a beaucoup cette espèce de petits trucs un peu bizarres. Mais c'est important de le dire et c'est pas un truc, enfin, c'est un truc difficile à aborder comme quand tu parles de sexualité en règle générale.
De ton intimité, en fait.
Ouais, c'est ça, quand tu parles de ton intimité.
En fait, ce qui est intéressant avec la sexualité, c'est que ça force à repenser la façon dont, dont tous les gens, en règle générale, interagissent dans des relations sexuelles ou romantiques. Et c'est vrai que du coup, moi je sais que bon, maintenant j'ai fait le choix d'être célibataire, parce que je suis, moi pour le coup, aromantique. Mais les dernières relations que j'ai eues, du coup, c'était un peu le moment de stress au début où t'es là genre bon, quand est-ce que je le dis au premier rencard, au deuxième rencard, sans dire forcément, sans sortir le mot asexuel, de juste... dire bon bah alors moi j'ai pas trop envie de baiser tout de suite, c'est pas trop mon truc le cul,
voire même jamais en fait. Voilà.
Mais ça c'est venu avec le temps, maintenant c'est je suis
genre, tu sais, tu dis pas tout de suite, sur la robe ça va, veut juste un peu de temps, voire même jamais, ils font ah. Bon, merci pour ce rendez-vous. Là,
justement, s'il y a des gens là qui nous entendent et qui se sentent proches de votre expérience, qu'est-ce que vous pourriez leur donner comme conseil ? Pour se révéler.
Moi, je pense que c'est surtout important, en fait, dans le sens où il faut d'abord, premièrement, se sentir bien soi-même avec ce terme-là. C'est-à-dire que si on l'accepte soi-même, t'es asexuel, ok, c'est comme ça, tu te sens bien. À partir du moment où vraiment tu as accepté le terme, qu'il est vraiment en toi, que tu te dis, ouais, pas de souci avec.
Ça me correspond.
Ça me correspond. À ce moment-là, moi, je me suis sentie beaucoup plus libérée. Et d'un coup, je me suis dit, mais tranquille, en fait, de parler de sexe, nickel.
Enfin, j'ai eu facile. Ouais, moi j'ai mis 10 ans entre le moment où j'ai su que j'étais asexuelle, où j'ai vu le mot et j'étais là genre ah ouais, ça c'est moi en fait, c'est pour ça que je n'ai juste envie de personne. Et le moment où je l'ai assumé, il s'est passé 10 ans.
Ah ouais.
Qui ont été ponctués de genre une quantité de rapports sexuels horribles en mode genre non, sors. C'était genre vraiment
c'est
la cata.
C'est Fort Boyard.
Et le fort a vraiment souffert. Et c'est vrai qu'une fois que j'ai commencé à l'accepter, quoi, une fois que j'avais suffisamment essayé pour me dire bon bah c'est bon là, on peut vraiment là c'est bon, j'ai vraiment tout donné, c'est clair et net, il y a plus de doute. Et à partir de là, tout allait beaucoup mieux. J'ai même eu des plans cul sans cul suite à ça et
des plans câlins quoi.
C'était ouais des plans câlins. On trouvait notre petit truc entre tu vois entre les deux quoi.
Je crois qu'on a à peu près l'idée de ce dont tu parles, je crois.
Mais il y a aussi une question de timer, tu vois. Je disais genre bon alors ça va durer à peu près 15 minutes. Il y a pas de bite à impliquer dans le jeu et quand je dis stop, on arrête.
Elle sait parler aux hommes.
Et je crois que ça lui a beaucoup plu.
Ah. Aline, on voulait te demander aussi pourquoi les asexuels font partie de la communauté LGBT.
Les gens sont très divisés dessus. À la fois les personnes qui sont pas asexuelles, qui sont LGBT, et les personnes asexuelles qui sont LGBT. Parce que y en a qui disent, je l'entends vachement, les personnes asexuelles qui disent soit non mais ils sont hyper sexualisés, ou alors ils disent mais de toute façon ils veulent pas de nous. Et donc du coup ils disent bah on n'est pas pareil. Et puis alors nous on a rien à voir avec le cul vu qu'on aime pas le cul. Et à l'inverse du coup du côté des LGBT, on a des gens qui vont dire ils aiment pas le cul. Nous quand même notre vie c'est le cul donc. Alors qu'en fait, le point commun de toutes ces situations, c'est qu'on sort de la norme. Et quand tu sors de la norme, de toutes les normes, et particulièrement des normes d'orientation sexuelle, t'as les mêmes histoires de vie.
La communauté LGBT, c'est surtout la représentation des minorités sexuelles. Mm-hmm. Minorité sexuelle.
Et justement, tu te sens appartenir à cette communauté LGBT, Laurie ?
Moi, je me sens appartenir. J'ai fait la Gay Pride, la dernière Gay Pride qu'on avait pu faire. Et je l'ai fait, du coup, avec l'association AVA, Association pour la Visibilité Asexuelle. Et moi, c'était ma première Gay Pride, vraiment. Et je me suis dit, en fait, j'y vais parce que je fais partie aussi des minorités sexuelles et aussi parce que je suis solidaire envers les autres minorités sexuelles. Donc j'allais vraiment dans cette optique-là et je me suis dit « Merde, Laurie, c'est une gay pride quand même, est-ce qu'il n'y a pas des gens à l'extérieur qui vont commencer à te cracher un peu sur la gueule, prends vraiment ça sur toi ?» Et en fait, pas du tout. C'est les gens dans la gay pride qui ont commencé à me dire « Mais pourquoi vous êtes là, vous qu'est-ce que vous faites là ?» Comment ça ?« Mais vous êtes pas du tout, vous n'avez pas du tout de sexualité, donc en fait vous n'avez pas à être là. » « Oui, mais en fait je suis une minorité sexuelle. » Et puis beaucoup de gens qui étaient là « Mais qu'est-ce que c'est ?» Tu vois, beaucoup de gens qui sont dans la communauté LGBT, ouais, ouais. Mais qui connaissent pas tout.
Non, mais surtout que j'imagine, après ces premiers contacts, vous avez partagé de ouf plein d'anecdotes, de machin, avec ces gens de communauté LGBT dont tu parles, Laurie.
Oui, c'est ça, ouais. En gros, oui.
Au final, ça crée le partage beaucoup plus.
Au final, ouais. Ça crée quelque chose, même s'il y en a qui sont quand même très fermés là-dessus et qui disent, ils ont entendu mon PowerPoint, et ils ont dit, ah non, je suis toujours pas d'accord, sortez.
Ah. C'est rassurant de voir qu'il y a toujours des cons, même dans les communautés LGBT. Alors lui, en tout cas, il est tout chamboulé. C'est Maxime, qu'on peut qualifier de gros niqueur. Hein, parce que pour la première fois de sa vie, avec le thème de cette émission, il a
lui,
été
en
sur
cas,
Internet.
Il est tout chamboulé,
autre chose que du cul dégueulasse. Bien au contraire, hein, il est allé pour dénicher des vrais messages de vrais internautes qui se posent de vraies questions sur l'absence de sexualité. C'est la rubrique SOS Plaisir.
Oui, Poulpe, et figure-toi que certains forums médicaux ont même un dossier entier consacré à l'asexualité, où on trouve de nombreuses questions intéressantes et limpides, comme celle de Tommy, accrochez-vous. Bonjour, est-ce possible, slash cohérent, qu'un garçon attiré par les garçons, pas bisexuel, soit asexuel avec une femme? Merci par avance. Alors voilà une question toute simple, toute bête. Hein. Alors, Tommy, sache qu'il n'est pas non cohérent de se définir comme l'inverse de son identité choisie, ou à l'inverse non choisie mais ressentie, ou son contraire, donc bien sûr...
Max, en fait, ouais. J'ai peur que tu l'embrouilles un tout petit peu, là.
Ah bon, bah, pourtant, on peut pas être plus clair, enfin, à moins de dire l'inverse d'un non-message s'il est positivé, quoi, mais...
Waouh.
Peut-être qu'on peut dire à Tommy qu'il se définit comme il veut, finalement, non?
J'ai rien compris à ta phrase. Mais bon, bref, passons au message de Benou, qui écrit sur le forum d'un magazine psycho. J'ai découvert des échanges entre ma compagne et un homme. Elle dit que c'est une relation platonique, car elle tient à moi et ne veut pas me faire de mail. Que faire? Faut-il accepter? Eh bien, c'est vrai qu'un mail, ça se fait vite quand même, normalement. Enfin, elle pourrait faire un effort. Est-ce que vous lui avez parlé de Caramail? C'est un outil simple et gratuit.
Max, je crois qu'en fait, il y a une faute de frappe. Il voulait écrire mal, hein, qu'elle ne veut pas lui faire de mal.
Ben, il y a marqué mail. Moi, je déforme pas les propos des gens, René. Je respecte. Bon, tant pis. Passons au message de Sofar sur le forum d'un célèbre site de jeux vidéo. Et qui, alors là, honnêtement, c'est un parmi des milliers de messages de jeunes hommes qui ne comprennent pas pourquoi ils ne trouvent pas de copine. Il dit « Je ne trouve pas de copine alors que je m'habille correctement. Je suis cultivé à force de passer mes journées sur le net. Je suis sociable quand on me connaît. J'ai aucune amie femme, donc pas de jalousie possible. Je suis drôle, sympa et musclé. Il y a une fille sublime qui avait l'air de s'intéresser à moi. Mais je ne lui ai pas parlé. Du coup, elle s'est désintéressée et maintenant, elle a un copain. Que faire ?» Alors, effectivement, c'est à n'y rien comprendre. J'avoue, j'ai beau retourner l'affaire dans tous les sens. Là, vraiment, c'est une colle. Je ne comprends pas. Clairement, il y a un problème, à mon avis, inhérent hein, avec le genre féminin là, qui ne comprend pas qu'elle a
devant elle. Ouais, non, c'est vrai que c'est bizarre. Je vais appeler bizarre. La FFF, je pense, si ça te va, la Fédération Française des Femmes, pour faire remonter son cas, et puis traiter ça en commission. Quoi.
Bah, c'est gentil. T'insisteras bien sur le fait qu'il est cultivé à force de passer ses journées sur le net, parce que je pense que c'est vraiment un point important.
Je suis d'accord.
Et puis tu leur fais un bisou de ma part.
Carrément.
Merci Maxime, c'était une vraie partie de non-plaisir. Comme la... Ah non, voilà, déjà à venir le moment que je redoute toujours, le moment où il n'y en a que pour René. Ah oui, moi, mon reportage, oui, je suis une journaliste de terrain, blablabla, la carte de presse. Ah non, j'ai pas ma carte de presse,
je me sens libre.
Bon, bref, ok, voilà, le reportage de René.
Voilà, alors pour ce reportage, on s'est dit que ce serait pas mal d'aller voir quelqu'un qui fait du non-sexe un jeu sexuel. Je sais que c'est contre-intuitif comme ça, mais ça existe. Ça s'appelle tout simplement une cage de chasteté, en fait. Donc on va en parler tout de suite avec Gala Fur, qui est une dominatrice. Et donc je suis en train d'arriver chez elle là pour qu'elle me raconte tout ça, les jeux sexuels autour de la cage de chasteté.
Bonjour Gala, vous allez bien?
Ça va, rentrer, je pars ici.
Merci.
Alors Gala, ce que je veux bien de vous demander dans un premier temps, ce serait que vous vous présentiez, s'il vous plaît.
Gala Fur, dominatrice, écrivaine et également cinéaste.
Et aujourd'hui, on est là pour parler de chasteté dans des jeux considérés comme sexuels, en tout cas. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu en quoi ça consiste?
La chasteté dans les jeux sexuels, disons que c'est principalement pour un homme qui se dit soumis, hein, porter une cage. Ça ne concerne pas vraiment les grands masochistes ou des personnes extrêmes, mais plutôt des personnes qui dédient leur chasteté à une femme. C'est une contrainte.
Ouais, c'est très
les soumis adorent les contraintes. Mmh. Chaque fois qu'il y a bandaison, la bandaison est contrainte et réduite. C'est de l'auto-érotisme, en fait. Ça l'excite d'être en cage, ça le titille, parce que chaque fois qu'il a un début d'érection, la cage le resserre un peu, et donc, oui, c'est son plaisir. C'est très égoïste, en fait. Enfin, quand c'est dédié à une femme, c'est comme porter le mouchoir parfumé d'une femme dans sa poche. Disons que c'est une manière d'être fidèle, d'une part, à sa maîtresse, de ne pas avoir de rapport sexuel ou même d'éjaculation sans lui en faire part. Et donc, il n'y a pas besoin que la femme soit présente. Il suffit, en général, qu'elle ait une clé. On pourrait dire que la dominatrice qui accepte le jeu, elle est quelque part un peu interchangeable. C'est celle qui accepte qui est la bonne, quoi. Donc évidemment, à partir du moment où elle accepte la clé, c'est comme dans un mariage, même si elle n'a pas vraiment de sentiments au départ, elle finit par en avoir un peu.
Eh bien, merci beaucoup, Galin. C'était très intéressant, ces histoires de chasteté.
Merci, René. À bientôt.
À bientôt.
Voilà, je sors de chez Gala et maintenant, direction chez moi, où je vais retrouver un soumis à qui sa maîtresse a donné l'ordre de répondre à mes questions. Voilà, c'est quelqu'un qui est obligé de faire une interview avec moi. Et ce soumis porte une cage de chasteté et j'ai envie qu'il me raconte de lui-même pourquoi porter une petite cage en métal sur son sexe. Allez, on y va. Alors, pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît ?
Eh bien, je m'appelle Jean-Marc, j'ai 68 ans. Et que dire d'autre ? Je suis un adepte de la supériorité féminine.
Depuis longtemps ?
Depuis toujours, je pense. J'ai dû découvrir ça, j'avais 18 ans et ça ne m'a jamais quitté.
Qu'est-ce qui vous plaît, en fait, dans cette supériorité féminine ?
L'amour de la femme. Il n'y a rien d'autre à en dire.
Alors aujourd'hui, on est là pour parler de cage de chasteté. Est-ce que vous pouvez me raconter un peu votre rapport à la chasteté et puis vous, la cage que vous portez depuis combien de temps ? Pourquoi ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ?
Eh bien, j'appartiens en effet à une femme qui m'a placé en cage de chasteté depuis maintenant 2 ans et 3 mois. Je vous la montrerai si vous le souhaitez. C'est une mini-cage métallique de 3,5 cm. Avec des picots intérieurs, et je n'en ai pas la clé. Alors, ça empêche les érections, ça réveille la nuit environ 2 à 3 fois, voire même parfois 4 fois. Ça n'est pas du tout agréable, ça gêne les mouvements durant la journée. Moi qui suis motard, ça complique les choses. Le vélo, c'est pas facile non plus, mais c'est un plaisir de sentir qu'on appartient à une femme.
Qu'est-ce que c'est que le plaisir d'appartenir à une femme ?
Je pense qu'il est exclusivement cérébral, c'est-à-dire l'envie en fait de montrer à l'autre qu'on est capable de l'accepter jusqu'à ce point et de se dépasser dans cette épreuve. Moi, ce qui me plaît, c'est de montrer à l'autre que je vais l'accepter. Et pour moi, l'aboutissement de l'amour, quelque part, c'est la mort. Donc on doit pouvoir être capable d'accepter l'autre jusqu'au bout. On sent véritablement qu'on est vivant lorsqu'on peut en effet traverser un certain nombre d'épreuves. Si on n'est pas capable d'accepter l'autre, on ne mérite pas.
Très bien. Merci beaucoup Jean-Marc, c'est très gentil d'avoir répondu à ces questions.
Merci en tout cas de m'avoir reçu.
Merci beaucoup.
Merci René, après ce reportage, je suis persuadé que les oreilles chastes auront un petit trou dans le tympan. Je me tourne vers toi maintenant Aline, tu vas bien ?
Très bien, et toi ?
Très bien.
J'ai fait une petite voix un peu suave.
Oui.
C'était
ta voix de radio.
C'était super.
Non, de téléphone.
Téléphone rose.
Alors Aline,
3615 Aline.
Outre le 3615 Aline, sinon, à part ça, tu es journaliste, spécialiste des questions d'asexualité et de ce mouvement. Et justement, comment il s'est constitué, ce mouvement d'asexualité ? Est-ce qu'on a une trace un peu dans l'histoire ?
Ouais, alors ce qui est hyper intéressant avec la sexualité, c'est que, comme toutes les autres orientations sexuelles, elle a toujours existé.
Bah oui.
Mais elle a chopé son nom il y a très exactement 20 ans, quand Internet est apparu. Ah. Donc c'est la seule orientation sexuelle qui est née avec Internet. Et notamment donc un peu le papa de la sexualité qui s'appelle David Jay, qui est un Américain. Il a toujours compris qu'il était un peu asexuel et puis il cherchait un mot, donc il a utilisé le mot asexuel. Et puis quand il a découvert Google, il a commencé à taper genre pas de désir sexuel et puis tout d'un coup... Il a trouvé un article et puis les gens y commentaient sous l'article et puis finalement il a décidé de faire un site. Et puis c'est un peu comme ça que sont nées les choses avec des petits groupes de 18 personnes qui parlaient et puis après la création d'un forum et les gens ont commencé à discuter. Et en fait du coup toute l'histoire de la sexualité c'est ça, c'est plein de gens qui ressentaient la même chose. Et tout d'un coup eu un moteur de recherche, ils ont tapé le truc, ils se sont mais pleins à avoir tous utilisé le mot asexuel chez eux tranquillou sans savoir que d'autres l'utilisaient. Et donc c'est un peu comme ça que c'est né et ça en soi c'est... Ça s'est vraiment créé par les internautes entre eux dans les forums.
Tu as travaillé sur une enquête pour Néon sur les violences sexuelles liées à la sexualité. Est-ce que tu peux nous en parler ?
Ouais. En fait, dans la communauté asexuelle, il y a beaucoup de personnes qui ont souffert d'agressions sexuelles. Et il y a à peu près tous les types d'agressions sexuelles. Ça peut aller des plus hardcore, les viols correctifs, qui sont là vraiment soit des punitions, c'est-à-dire que les gens se disent... juste, il faut la punir parce qu'elle n'est pas dans la norme, soit une sorte de bienveillance où les gens se disent...
Je vais lui rendre service.
Ouais,
je vais lui montrer ce que c'est un vrai coup, quoi.
Si t'es convaincu que le sexe, c'est vraiment le meilleur truc du monde et que quelqu'un qui n'a pas de rapport sexuel est en train de passer à côté de sa vie, bah, t'en arrives à des comportements complètement débiles, quoi. Et parfois, moi, ce que j'ai remarqué dans les personnes à qui j'ai parlé, c'est qu'en fait, les mecs savaient dès le départ que les nanas voulaient pas de cul. Et que c'est ça qui les excitait, en fait. Oh. Cette idée de la meuf pure qui va, du coup, pas les tromper. Qui, du coup, en plus, bah, y aura encore plus une domination, parce que quand on va les forcer, ça va être encore plus... elles vont encore moins kiffer, quoi, d'être violentées. Et puis, pareil, avec du coup, les potes qui violent et tout ça. C'est aussi le même délire de aller pure, aller...
Dans les témoignages qu'on a vus, il y avait aussi, donc, il y a des traumas physiques, mais aussi des traumas psychiques. Il y a aussi des réflexions, des machins qui peuvent bloquer aussi la sexualité.
Bah, le fait de s'entendre dire, en fait, non-stop, tous les gens ont du rapport sexuel. C'est bête, hein, mais c'est juste les mots, les tous, tout le temps, à répétition. Quand t'es ado, que tout le monde ne parle que de ça, bah, en fait, tu finis par l'intérioriser et penser que t'es la seule personne. Et de m'entendre dire, parce que, en fait, mine de rien... C'est un peu, je pense que Laurie, t'es pas d'accord avec moi, mais le sexe est vu comme étant un truc cool. Et pas avoir de sexe, c'est vu comme étant un truc de loser. C'est si t'as pas de rapport sexuel, c'est que t'y arrives pas. Parce que tout le monde en a envie. Et donc, du coup, en fait, quand t'es. Quand t'as pas de désir sexuel, bah, on te prend comme une merde, quoi. Ouais. Et ça, c'est hyper dur à vivre. Et puis après, il y a vraiment la pression directe. Moi, je sais que collège, lycée, collège, c'est allé.
Collège, ça va.
Dis, bon, ça va venir. Lycée, déjà, là, pratiquement toute ta classe a baisé. Et toi, toujours pas.
Mais bon. C'est le moment où tu t'inventes une vie. Moi, je sais qu'au lycée, pour qu'on me laisse tranquille, j'avais un copain et je l'avais jamais dit, mais tout le monde s'était fait à l'idée que j'avais couché avec et j'ai jamais nié, tu vois. Je me suis dit, bon, ok, je vais faire genre, oui, c'est bon, rigolo, ouais, c'était bien, ouais, ouais, trop bien, laissez-moi tranquille. Mais en gros, c'est ça, parce qu'en fait, t'as une pression sociétale, comme tu disais, pas trop au collège, mais vraiment au lycée, où tout le monde vraiment était hypé là-dessus, tout le monde était vraiment que sur ça, et toi, t'es là... Non, moi j'ai remporté mon truc Mario Kart, c'était cool. Mais vraiment, tout le monde était là-dessus et du coup, toi tu dis rien. Et vraiment, enfin, je sais pas pour toi, mais moi je me sentais trop mal dans ce genre de conversation.
Non, non, moi je parlais de cul tout le temps. C'est vraiment le truc de ceux qui en font le moins, qui en parlent le plus, quoi. Mais c'est après, du coup, que quand j'ai commencé à avoir 20 ans, école de commerce, premier stage et tout ça. Alors, l'école de commerce, je vous raconte, c'est vraiment pas l'endroit pour être asexuel. Hein. Vraiment pas. Et là, les gens, parce que justement, je sais pas mentir, je veux pas mentir, je vois pas pourquoi est-ce que je mentirais. Et donc, du coup, je disais aux gens que j'avais pas de rapport sexuel, que j'étais jamais sortie avec personne. Et là, les gens sont devenus vraiment... genre, ils voulaient vraiment m'aider, mais genre non-stop, quoi. Mmh. Et donc, du coup, mais il se passait pas une semaine sans quelqu'un me dise « Ah non, mais il faut que tu te masturbes. Ah non, il faut que tu pratiques. Ah non, il faut que tu machins. »
Il faut qu'on te présente Fabrice du service ouais, compta.
Mais l'inconvénient de ces choses-là, c'est que c'est toujours pour eux dans une optique de gentil, tu vois. Vraiment, ouais. Je vais t'aider, mais t'inquiète pas. Mais attends, c'est que t'as vraiment un problème. Ils sont vraiment convaincus de ça. Alors que pour toi, ça te fait encore plus mal. T'es juste là, non, mais vraiment...
Je pense que c'est très important ce qu'on est en train de dire. Pour tous les gens qui nous écoutent, vont se dire « Ah merde, faut vraiment que j'arrête de faire chier telle ou telle personne dans mon entourage. »
Ouais, arrêtez de faire
alors,
chier avec ça.
J'avais une autre question, c'est dans les couples, il y a souvent l'un des deux qui a une baisse de libido, de temps en temps, c'est un grand classique dans les couples. Est-ce qu'on peut qualifier ça d'asexualité passagère ou c'est juste un simple aléa de couple?
En fait, ce qu'il ne faut pas confondre, c'est le désir sexuel en tant qu'orientation sexuelle et le désir sexuel en tant que réaction physique. Un des gros problèmes aussi pour les personnes asexuelles, pour être en bonne santé, il faut avoir des rapports sexuels. Alors, le nombre d'études qui te disent « Les gens qui baisent 3 fois par semaine gagnent 5 ans de vie en moyenne ». Genre, non, mais juste, mais shut up, quoi. Genre, vraiment...
Le pire du pire, je crois que ça a été Hanouna qui avait passé l'émission de...
Tu peux t'arrêter au début de ta phrase.
C'est pas faux. Et du coup, il avait passé un extrait d'Allo Docteur en disant bah, « Voyez, elle accouche pas, du coup, bah, elle a plein de problèmes de santé, du coup, elle est immunodéficiente, du coup, machin, du coup, truc. »
C'était toi.
Et c'était moi. Oh, enfin, oh my God. J'étais ravie, genre... Je sais plus, j'ai une pote qui me dit « Putain, tu passes sur Hanouna ?» Je fais « Nani ?» Je suis partie voir, je fais « Quoi ? Qu'est-ce que c'est que ce délire ?» Et en fait, il avait repris l'émission d'Allo Docteur en disant « Mais en fait, exactement ce que les études font, elles disent « Si vous pratiquez une activité sexuelle, comme tu dis, 3 fois par semaine, du coup, ça vous aide à ce niveau-là, la santé, machin, truc bidule. » Et en fait, en le reprenant à l'envers, du coup, si on fait pas, on risque ça, on risquera ça, on risque ça.
Alors non, que moi, je fais du vélo, en fait, ça suffit.
Ouais, voilà.
Et du coup, tu milites à l'AVA, l'association pour la visibilité asexuelle. Qu'est-ce que c'est pour toi les revendications les plus urgentes de votre communauté? Comment on peut changer les choses?
L'information. Moi, si j'avais su beaucoup plus tôt que j'étais asexuelle, bah, je me serais évité pas mal de merde, quoi. Rien que le fait de savoir ce que c'est, d'expliquer, de dire vous êtes normal,
savoir
et puis,
que t'es pas seule,
savoir que t'es pas seule, et puis rencontrer une personne comme ça, se dire bah, pour une personne hétéro, quand elle va rencontrer une personne comme ça, elle va se dire ok, je sais ce que c'est, tout va bien, et elle va pas le faire chier sur ah non, mais t'as pas trouvé la bonne personne.
Merci beaucoup, Aline et Laurie. On va se diriger maintenant vers le répondeur de l'émission avec des témoignages du public de Crac Crac. Alors, des gens pas forcément asexuels, mais qui sont en disette en ce moment, mais on se démonte pas, et je vais quand même faire un lancement plein d'énergie. Tu cherches des plans pas du tout chauds dans ta région ? Tu veux des mecs bien mous, juste pour te faire des bisous dans le cou ? Envoie plan cou au 8-12-12 ou laisse-nous un message sur le répondeur de l'émission.
Il m'est arrivé à plusieurs reprises de ne pas avoir envie de coucher avec une fille par flemme ou manque total de libido, en sortant de fausses excuses du type « mon travail m'épuise, j'ai déjà prévu quelque chose, j'ai déjà prévu une bouffe avec des amis, je suis en gueule de bois, etc. »
Salut Poule, salut Crac Crac. Alors moi, la petite anecdote, c'est qu'en ce moment, je me retrouve à faire un mémoire sur les sextos, parce que je suis étudiante en master de sciences sociales. Mais le petit problème, c'est que en ce moment, je suis en pleine disette du cul à cause du confinement. Voilà.
Bonjour. Alors en fait, moi, c'était juste pour dire que globalement, je suis habituellement une personne très active sexuellement. J'ai des plans cul, réguliers ou pas. Et depuis quelques temps, j'ai complètement arrêté parce que je me suis rendu compte que ça ne me convenait plus du tout. Il n'y avait que le physique qui était comblé et mes besoins d'affection, d'attention, de projet, ils étaient complètement mis de côté. Et je me sentais frustrée, voire même un peu triste des fois quand j'étais avec mes partenaires.
Mon ex-copine avec qui j'ai été plus de 4 ans prenait un malin plaisir à évaluer mes performances sexuelles, jusqu'au jour où elle m'a même ouvertement comparé à ses ex pour me faire comprendre que j'étais moins bon qu'eux. Ça a eu pour effet de créer en moi un complexe que je n'avais pas auparavant, et aujourd'hui je suis dans l'incapacité de passer à l'acte avec quelqu'un d'autre à cause d'angoisses énormes et d'un stress monumental.
Je vous fais des énormes bisous aux gens qui ont envoyé ces témoignages. Aline, on a halluciné justement lors de la réception de ces témoignages. En fait, il y avait une majorité de messages qui venaient de mecs. C'est un truc que vous voyez
bah
à
ouais.
votre niveau
ouais. Bah clairement. En fait, clairement, on leur demande qu'ils soient hyper performants. Ouais. Clairement, c'est une pression. Moi, je n'ose même pas imaginer la pression que c'est. On te demande d'avoir déjà une taille de bite réglementaire, presque. On te demande d'avoir des rapports comme ci, comme ça. Il faut que tu la fasses jouir à chaque fois. C'est hyper compliqué pour eux. Enfin, j'imagine. Du coup, oui, je comprends qu'il y a énormément de mecs qui se mettent la pression, qui se posent vachement de questions et qui se disent « Oh là là, en plus, moi, je suis un mec, donc je dois penser à ça souvent et je dois être hyper efficace là-dessus. »
Merci beaucoup. Du coup, c'est terrible parce que vous dites des choses très intelligentes et je vais devoir enchaîner pour Maxime Donzel, et c'est vraiment terrible. Certains sont asexuels ou as, mais lui, c'est l'as du sexe qui pique ton cul. Caropine. Voilà, c'était un jeu de mots écrit par René.
Oui.
Ouais, ça te fait plaisir que je l'ai dit.
Je suis tellement heureuse.
Ah, beaucoup de bonheur et hélas, d'un coup, plus du tout. Puisque voici Maxime Donzel pour sa rubrique Culture Beat.
Et oui, bonsoir. Alors, je m'appelle Maxime et je vois des bites partout. Mais alors, du coup, bah, pour cette spéciale sexe et non-sexe, bah, pour une fois, je suis allé voir là où il n'y en a pas, dans les films et séries où, pour une fois, ça baisse pas. Et les histoires d'absence de sexe, bah, c'est pas nouveau dans la pop culture et dans la culture tout court. En fait, même, ça date de la Grèce antique. Hein. Dans la pièce Lysistrata, en 411 avant Jésus-Christ, des femmes lancent une grève de sexe. Alors là, j'ai apporté des sacs en papier pour aider nos animateurs à respirer parce que je vois la crise d'angoisse arriver. Calmez-vous, c'est de la fixe. Alors, il faut dire que c'est normal, quand on nous raconte des histoires de diète de sexe, on nous martèle toujours la même idée, ça va être l'horreur. J'en veux pour preuve par exemple l'émission récente Séduction haute tension, une télé-réalité Netflix où les candidats peuvent gagner 100 000 $, mais quand ils apprennent en direct la condition pour remporter le gros lot,
vous ne pourrez pas avoir le moindre rapport sexuel durant votre séjour.
Oh non,
c'est pas possible.
Eh oui, l'absence de sexe, c'est la pire chose qui peut arriver à un être humain. Enfin, disons dans le top 3 avec être écorché ou être invité à une émission sur le sexe animée par Monsieur Poulpe quand on est asexuel.
Ouais,
l'idée que l'abstinence serait quelque chose en soi d'insoutenable, en fait, revient régulièrement dans la pop culture avec généralement ce petit cadeau bonus. Hein. Évidemment, c'est surtout difficile pour les hommes. Ah oui, comme dans le film 40 jours et 40 nuits avec Josh Hartnett.
Aucun attouchement d'aucune sorte. Pas de plotage, pas de suçage, pas de masturbation. Aucun homme ne peut y arriver, c'est contre nature.
Bah oui, les femmes ne baissent que par politesse, hein. C'est leur nature, c'est le tricot. Après, bon, je vais pas trop jeter la pierre à ce film, vu que bah, mes chroniques commencent toujours par « je vois des bites partout » et que...
Je vois des nibards et des paires de fesses partout.
Oui, bon, bon non, en attendant, après ce film, on a réussi à se passer de Josh Hartnett pendant 40 jours, 40 mois et bientôt 40 ans. Malgré tout ça, dans ce genre de film et de série, on apprend aussi qu'arrêter de baiser, ça peut aussi libérer notre potentiel. Dans Friends, quand Joey est obligé de faire une pause de sexe, il sent carrément tous ses sens se décupler comme un samouraï aveugle. Dans Seinfeld, George trouve enfin le temps de s'occuper de sa mère malade. Et dans Sex and the City, il y a un épisode où tout le monde arrête de baiser, alors Carrie repeint son appartement, Miranda se cultive sur la Shoah, et Samantha devient une génie du yoga. Non mais c'est fou, c'est un vrai leitmotiv des séries des années 90. En fait, le seul truc qui diffère d'une série à l'autre, c'est la raison qui motive la période d'abstinence. Et parfois, bon bah c'est très années 98 quoi.
Je n'aurais jamais dû péter devant lui.
Ah oui.
Oh mon Dieu.
J'avais voulu voir comment on traite le sujet en France. Bon bah des films sur des gens qui baissent pas, y en a pas beaucoup, hein. C'est pas le genre de la maison. Et pourtant je trouve que si on regarde ces films dans leur ensemble, en fait les films français ont en quelque sorte trouvé une solution au problème de la violence masculine. Attendez, je m'explique. J'appelle ça la jurisprudence Bebel. Vous connaissez Jean-Paul Belmondo, l'aventurier séducteur, le mâle alpha bien dans sa vie, bien dans ses couilles, qui distribue des clics et des claques entre deux gonzesses. On écoute un extrait.
Il paraît qu'on veut me fourrer à sec. Lequel commence ?
Oui, bah, comme dans tous les films avec lui, en gros. Hein. Bah, maintenant, écoutons Bebel dans le film Léon Morin prêtre, où il joue un prêtre abstinent.
Je sais que c'est pas drôle de reconnaître ses fautes devant son prochain.
Ah, ça fait du bien, non ? C'est tellement mieux, franchement, il est vraiment mieux comme ça. Alors moi, je dis conclusion, et si arrêter le sexe faisait de nous des êtres supérieurs, plus doux, plus intelligents, voire des génies, on peut rêver. Imaginons, je ne sais pas si Monsieur Poulpe s'arrêtait de baiser quelque temps, qui sait ce qu'il pourrait accomplir ? Peut-être qu'il pourrait guérir la faim dans le monde, ou plus réaliste, lire un livre en entier. Allez, écoutez, mesdames qui nous écoutez, rêvons ensemble, et refusez de coucher avec Monsieur Poulpe, c'est pour le bien commun.
Merci beaucoup, Maxime. Ces mots me touchent. Il faudrait qu'on essaye de faire abstinence de toi. Ça se trouve, peut-être l'émission sera tout autant géniale.
Sans doute.
Chers invités, c'est le moment de jouer ensemble. Le moment de notre quiz. Désolé, il y a le mot cul dedans, mais on n'a pas pu changer tout le nom des rubriques.
Et oui, et sur cette musique pas du tout sexuelle, nous allons jouer ensemble et vous aussi, chez vous, vous pouvez jouer avec nous, avec des questions autour du thème de l'émission, à gagner des sacs bananes, crac crac, et des petites peluches. Pour jouer, Laurie et Aline, vous avez des buzzers, je vais vous les personnaliser tout de suite. Alors attends, Laurie t'a dit un truc qui m'a fait beaucoup rire et tu t'en es pas rendu compte, donc je le fais. Alors attends.
À ce point.
Nani. Je te laisse expliquer si jamais des gens ne parlent pas japonais couramment et qui écoutent ce podcast.
Nani, ça veut dire quoi en japonais? Voilà. C'est clairement.
C'est une expression quand on dit un truc et l'autre fait Nani. Ok, Aline. Aline. Voilà.
Je suis un peu déçue quoi.
Pardon, mon japonais s'arrêtait à Nani. Et trois questions, 5 points par bonne réponse. Et pour cette émission sur l'absence de sexe, nous avons décidé exceptionnellement qu'il y aurait également une absence totale de cadeaux. Je vois une absence de joie dans les yeux de mes invités. Ah, qu'est-ce que je suis non content. Bref, on va passer à la première question et c'est René qui va nous poser cette question. René, c'est quand tu veux. On t'écoute, les gens t'écoutent. Tout le monde est en train de se préparer à répondre au quiz. Les mains sont sur les buzzers. Chez vous aussi, vous pouvez jouer. Créez-vous des buzzers. Vas-y, René.
Première question. Qu'est-ce que le NoFap Challenge ?
Aline, ouais.
C'est quand tu te masturbes pas. Oui. C'est pas ça ?
Si, c'est ça. C'est le fait de prôner l'arrêt de la masturbation et de tenir le plus longtemps possible. Challenge lancé par le site StopFap, qui distribue même des grades, comme dans l'armée, en fonction de la durée qu'on réussit à tenir.
Oui, apparemment, c'est bien pour genre être une meilleure personne et penser plus vif. Plus rapidement.
Du coup, moi, je pense que je ne serai jamais colonel. Du coup. Allez, on passe à la question suivante. Dieu, que cette voix est agaçante. On passe à la question suivante qui est posée par moi. Alors, parmi ces célébrités, laquelle n'est pas officiellement asexuelle ? Ok ?
Officiellement.
Officiellement asexuelle. laquelle ne l'est pas. Le chanteur Morrissey du groupe The Smiths, Shipper, l'ennemi de Dora l'exploratrice, ou Bob l'éponge. Laquelle, lequel n'est pas. Oui.
Shipper.
Shipper, bien joué.
Ouais,
bien joué, bien. Effectivement. Le chanteur Morrissey a toujours dit dans ses interviews qu'il était asexuel depuis des années. C'est Steve Hillenburg, le créateur de Bob l'éponge, qui a précisé publiquement que Bob l'éponge était asexuel.
Ouais.
Donc voilà, donc Bob l'éponge est asexuel, Morrissey est asexuel, et donc Shipper n'est pas asexuel. Par contre, Babouche est un gros frotteur dans le métro. Et maintenant, une question sur la virginité qui va être posée par M-A-X. C'est Max, c'est Maxime. Allez, Maxime.
Alors, est-ce que vous pouvez me citer au moins deux pouvoirs attribués aux vierges au Moyen-Âge ?
De pouvoirs.
De pouvoirs spéciaux.
Ouais, elles avaient des pouvoirs magiques, les vierges.
Ah, c'était pouvoirs magiques.
Oui, Aline.
Elles peuvent voler et elles peuvent ne.
Alors, on regarde
elles
en même
pas
temps dans
règles.
La vie.
Elles peuvent faire la mayonnaise mieux que les autres.
Je crois qu'on peut accepter quand même, Maxime.
C'est ça, le secret de la mayonnaise.
C'est ça, en fait, il faut être vierge.
Je la rate tout le temps. Non, alors, j'ai noté que.
Elles ont un meilleur son.
Calmer les abeilles, par exemple.
D'accord.
Abeilles, ok.
Porter de l'eau avec les mains. Sans la faire, sans qu'elle coule entre les doigts.
Ça, c'est un pouvoir de vierge. Ouais.
Et okay. Un gros, pouvoir se retenir de faire pipi hyper longtemps.
Ah mais moi, je fais vraiment pas beaucoup pipi, quoi.
Ah, mais va vite au Moyen Âge. Tu seras considéré
du coup, ça
comme.
Tu peux calmer les abeilles.
Mais oui.
Si les gens ont un problème d'essence.
Écoute,
ils peuvent
je te propose qu'on teste tous les deux ensemble.
Oui, bravo, bravo. Qui a non gagné le cadeau ou gagné le non cadeau? Quelqu'un a compté les points? Je vois que l'équipe technique n'y a pas du tout pensé. C'est là un gage de qualité dans une émission. Et voilà, crac crac, c'est déjà fini. Alors croyez pas que vous allez aller écouter d'autres podcasts dans notre dos. Hein. Donc moi, je donne un petit coup de clé sur votre casque de chasteté pour le fermer, et puis la clé. Voilà, j'ai avalé la clé.
Mais non, promis, on revient très vite, et ne vous inquiétez pas, je vais faire manger des pruneaux à poulpe. Et tout va bien se passer. Merci beaucoup, Laurie, d'être venue à Crac Crac.
Merci à vous.
Et puis merci à Aline Maillard. On peut te lire sur Néon, Chic Magazine, Slate, et puis aussi sur ta newsletter pop culture I Like That.
Exact.
Je l'ai vraiment prononcé avec un accent allemand, on ne sait pas pourquoi, je ne sais pas pourquoi. Bref, désolé. Merci beaucoup les filles, j'ai vraiment personnellement énormément appris. Je sais que je ne parle pas au nom de mon équipe qui n'écoutait pas du tout pendant toute cette émission, mais en tout cas moi j'ai énormément appris vraiment. Et je rarement je me suis dit qu'une émission était autant importante pour les gens qui allaient nous écouter, parce que je sais, en ayant eu plein de témoignages pour le répondeur, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de gens qui en chiaient là-dessus, donc si ça peut aider, tant mieux. Et en attendant, n'hésitez pas à vous abonner pour être au courant dès qu'un épisode de Crac Crac est en ligne, à partager cette émission, à mettre un max d'étoiles et puis à nous taguer René, Maxime et moi si vous avez des remarques ou des questions. Salut à toutes
et à tous.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.